au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Nous abordons aujourd'hui la question de la mort à l'hôpital. Nous avions reçu dans une émission précédente Régis Aubry et nous sommes contents de le recevoir à nouveau. Régis Aubry, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes coordinateur du programme national de développement des soins palliatifs, président de l'Observatoire de la fin de vie, donc depuis avril 2010. Vous êtes professeur associé de la faculté de médecine de Besançon et vous développez, c'est ce que nous avons vu dans une émission précédente, vous développez des questions relatives à ce paradoxe du progrès qui développe des questions éthiques, sans pour autant que ces questions éthiques n'apparaissent nécessairement au grand jour. Et donc, c'est ce que nous avons vu dans une émission précédente. Je précise que la commission Leonetti numéro 1, donc de juillet 2004, qui a donné naissance à la loi Leonetti, donc vous avez été auditionné par cette première commission, la deuxième commission Leonetti, donc pour évaluer la compréhension de cette loi, donc vous avez été auditionné par cette deuxième commission, donc de décembre 2008. Et puis, donc, il y a un rapport, et je voudrais qu'on s'appuie un peu sur ce rapport-là pour que vous puissiez mieux nous parler de la mort aujourd'hui à l'hôpital. Donc, il y a eu un rapport donc, de l'IGAS qui s'appelle « La mort à l'hôpital » de novembre 2009, qui émet un constat que l'on peut considérer comme relativement alarmant, inquiétant, négatif, voilà, quant à la mort à l'hôpital. Alors, que dit ce rapport, signé par Françoise Lalande et Olivier Weber ? Que la question de la mort est largement occultée à l'hôpital, que les moyens d'accueil et d'accompagnement des patients et des familles n'est pas vraiment évalué, et que beaucoup de difficultés apparaissent. Difficultés à définir ce qu'est la fin de vie, difficultés de l'annonce par le corps médical aux personnes de la situation dans laquelle ils sont, que cette ignorance et cette difficulté privent, je cite le rapport, privent les malades et leurs proches de la possibilité, s'ils le souhaitent, d'élaborer un projet de fin de vie. Voilà. Il constate aussi ce rapport une absence de réflexion globale sur cette question de la mort à l'hôpital avec l'hétérogénéité des pratiques. Alors, on va développer, reprendre ce rapport point par point, parce qu'il y a aussi un certain nombre de recommandations qui est faite. Mais la première chose, c'est est-ce que, je vais le poser un peu brutalement, vous qui êtes au cœur de ces questions d'une part, et puis surtout de cette pratique, est-ce qu'aujourd'hui, on meurt mal à l'hôpital? Et est-ce que l'hôpital ne fait pas tout ce qu'il pourrait faire pour accompagner de bonne manière et avec la meilleure qualité possible les mourants?
Alors, effectivement, il y a un lien entre ce qu'on s'est dit à la précédente émission et ce qu'on va dire à propos de l'analyse de ce rapport de l'IGAS. À partir du moment où, finalement, la vie entière a été confiée à la médecine, quand elle est déréglée, cette vie, il apparaît que la mort est vécue par le médecin comme l'échec de la médecine. Ça, c'est un premier point sur lequel il faudra qu'on revienne. Et que, finalement, la mort et le mort est la matérialisation de son échec de la médecine, en quelque sorte. Tout ça pour expliquer qu'on n'accorde certainement pas, ou on n'a pas accordé une importance, une grande importance aux morts, aux soins aux morts, aux rituels, à la place du temps et de la temporalité qui est nécessaire autour de tout cela, et que ça a été constaté, à juste titre, me semble-t-il, par l'IGAS. Tout ceci étant la conséquence, finalement, d'une espèce de médicalisation systématique de la fin de la vie.
Alors je fais une petite précision rapide, hein, je vous laisse continuer, mais vous avez cité effectivement Vauvel et Ariès dans notre précédente émission. On constate effectivement que quelque chose s'est perdu. Voilà, que quelque chose s'est perdu à ce sujet-là. Donc il y avait, quelque chose existait, et beaucoup de choses ont été perdues par cette médicalisation dont vous parlez. Mais je vous laisse continuer pour remettre un peu en perspective historique.
Oui, parce que là aussi, ce qui accompagne cette analyse que je fais, c'est un autre constat. C'est petit à petit cette séparation, de mon point de vue totalement artificielle, et je vais m'en expliquer, entre ce qui serait curatif et ce qui serait palliatif. C'est en quelque sorte cette occultation de ce qu'est le soin. Le soin est un unique, il n'est pas scindé entre le temps curatif et le temps palliatif. Les anglo-saxons ont d'ailleurs beaucoup plus de subtilité dans la langue entre le « cure » et le « care », qui traduisent bien pour ce deuxième mot la nécessité du soin et de l'accompagnement, en quelque sorte, consubstantiel à l'accompagnement de toute personne malade. C'est important ce point parce que dans le rapport de l'IGAS, on voit bien cette difficulté qu'il y a à dire quand est-ce que ça débute la fin de vie. Alors, on pourrait faire une réponse complètement stupide, ça débute dès le début de la vie d'ailleurs, la fin de la vie. Et c'est cette perte de conscience justement que la vie s'inscrit dans une temporalité et que la maladie vient parfois infléchir un peu plus et mettre en évidence cette relativité de la vie et cette temporalité de la vie. Cette espèce de refus de voir cela qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à dire « Tiens, ce monsieur qui était atteint d'un cancer, en phase curative, on va l'adresser au palliatif. » Mais c'est d'ailleurs terrible ce qu'on dit aux personnes, puisqu'on les renvoie à l'obligation de se débrouiller avec cela.
Donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire.
Voilà.
Et que donc...
D'ailleurs, entre parenthèses, ce que ne dit pas le rapport, mais que je constate régulièrement, c'est qu'autour de cette fausse dichotomie, dans le soin, et de cette fausse dichotomie et de la présentation des soins palliatifs comme quand il n'y a plus rien à faire, ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire, pour reprendre une expression célèbre, le risque, c'est de perdre la personne malade, vulnérabilisée par son rapport à sa maladie, de la perdre, de lui faire perdre aussi toute forme de repère. Et je dis ça parce que je suis assez surpris parfois par ce champ ouvert à un tas de dérives. Dérives sectaires, entre autres, d'ailleurs. Quand on enlève tout espoir à une personne, on la tue, en quelque sorte. Quand on dit « c'est fini, on ne peut plus rien faire », eh bien, c'est comme si on tuait, en quelque sorte, la personne. Et personne ne peut vivre sans espoir. D'où cette tendance à accepter un espoir qui viendrait d'ailleurs, entre guillemets, et qui est souvent proposé par des médecines dérivantes ou des médecines qui n'ont de parallèle que le nom, parfois, parce qu'elles sont franchement perpendiculaires, d'ailleurs.
Alors, pour reprendre un des points donc, du rapport de l'IGAS, le rapport de l'IGAS dit qu'il y a une vraie difficulté que nous avons constatée, nous les rapporteurs, et pour avoir auditionné une foultitude de gens, qui est la difficulté de la décision, de dire quelque chose. À un moment donné, il faut énoncer quelque chose. Voilà. D'où peut-être effectivement les soins palliatifs qui viennent à ce moment-là. Voilà. Donc, est-ce que cette difficulté est vraie, d'une part? Et deuxièmement, est-ce que cette difficulté ne va pas à l'encontre de ce que dit la Lunetti, de ce que disent les uns les autres, à savoir le projet de fin de vie. C'est-à-dire pour qu'il y ait un projet de fin de vie, encore faut-il se savoir en fin de vie, au bout de la vie. Voilà.
Alors, mon expérience personnelle, et puis corrobore complètement ces constats faits par les personnes de l'IGAS, une difficulté essentielle, pour le médecin surtout, c'est d'identifier ce temps de l'incertitude, ce temps des limites, la limite des savoirs, la limite de la vie, la limite de soi, la limite de l'autre, cette espèce de période un peu funambulesque dans laquelle on peut s'aventurer, si bien que le médecin, formé à l'agir, comme je vous le disais, je crois, dans la précédente émission, formé à l'idée qu'il y a toujours quelque chose à faire et à proposer, n'en finit pas d'énoncer des propositions et n'aborde jamais une question qui le taraude lui et taraude la personne qui est en face de lui. Mais chacun, en quelque sorte, réfrène, essaie de nier cette évidence qui s'imposerait si un mot était dit, en quelque sorte, qu'est bien il y a de fortes chances que l'on ne puisse pas vous guérir. Il y a de fortes chances que les médicaments que nous pourrions vous proposer n'influencent qu'au mieux la survie, mais certainement pas la possibilité de vous guérir. Vous voyez, toute cette difficulté que je fais, moi, que je renvoie aussi, comme je vous le disais dans la précédente émission, à un défaut fondamental dans la formation des médecins. On n'apprend pas la question de l'annonce, pas d'un diagnostic, mais d'une situation extrêmement difficile. C'est difficile. Il ne s'agit pas d'imaginer qu'on puisse, avec un enseignement, être à l'aise avec cela. Et d'ailleurs, le malaise est beaucoup plus parlant que les mots que l'on utilise autour de tout cela. Mais il n'empêche que le médecin n'est pas formé à aborder cette question de l'interface, qui s'allonge en plus avec les progrès de la médecine, comme je vous le disais précédemment, de l'interface entre ce que l'on appelait le curatif et ce que l'on appelait le palliatif. Aujourd'hui, ce qui émerge, ce n'est pas palliatif versus curatif, c'est, comme je vous le disais, une période possible de vie avec une maladie possiblement prolongée, mais pour laquelle se pose la question de la qualité, voire du sens de la vie.
Ça laisse supposer qu'il y a deux problèmes dans ce que vous dites, qui est un, effectivement, qui prend l'initiative de l'annonce ou de la question ou de la réponse, enfin, premièrement. Et deuxièmement, ce que les Grecs appelaient le kairos, enfin, le moment favorable, à partir de quel moment. Et donc, ces deux questions-là, comment peut-on les résoudre ? Sont-ils résolus ? Et comment dégager une plage, pour reprendre votre expression, qui laisse à supposer que, voilà, on prend le temps et dans ce temps-là, l'initiative... Alors, je ne sais pas qui peut avoir l'initiative, si c'est une question qui peut être posée ou si c'est le médecin qui, lui, de sa propre autorité, peut faire un diagnostic ou transmettre un diagnostic ou dire où on en est.
Vous vous rappelez, lors de la précédente émission, je vous parlais de la place que peut avoir l'incertitude et l'incertitude énoncée dans le discours médical. Et j'aurais tendance à faire remonter à l'annonce d'un diagnostic initial d'une maladie la nécessité de faire intervenir l'incertitude de l'avenir. C'est-à-dire, dès lors que quelqu'un tombe malade, d'ailleurs lui-même, plus ou moins consciemment, éprouve sa propre vulnérabilité et la relativité de sa vie. Puisqu'il l'éprouve, il suffit de demander à tous les gens qui ont vécu la maladie de nous le raconter, cela, ils le racontent très bien. C'est le moment que devrait choisir le médecin, non pas pour dire « ça tombe bien que vous me rencontriez parce que j'ai tout ce qu'il vous faut dans ma trousse à outils, en quelque sorte », mais de dire « vous savez, voilà ce que l'on peut faire, il n'y a pas de certitude en médecine, ça n'est pas une science exacte, vous êtes un homme et je ne peux me baser que sur des statistiques, mais il y a une certitude, c'est qu'on sait qu'on ne sait pas ce qu'il va devenir pour vous, précisément ». Vous voyez, ce discours emprunt à la fois d'humilité et d'incertitude, mais pas dénué du savoir scientifique qu'a acquis le médecin, permettrait, s'il est introduit très tôt dans le parcours de la maladie, et s'il est poursuivi au fil de l'évolution de la maladie et des rencontres entre le médecin et la personne malade, et si le dialogue s'immisce, je dis bien le dialogue, puisque on constate parfois que c'est un peu unidirectionnel, le dialogue, et qu'au milieu de ce dialogue, il y a quelque chose qui s'appelle la confiance, et la confiance, me semble-t-il, peut naître de l'énoncé de l'incertitude, paradoxalement, contrairement d'ailleurs à ce que l'on a pu croire. Vous savez, c'est parce qu'un médecin exprime une incertitude qu'un malade qui est en face de lui va espérer. L'espoir s'insinue dans l'incertitude énoncée par le médecin. Et c'est dans cette interface, à mon avis, que va naître une relation qui permet d'aborder, me semble-t-il, mais tout ceci est complexe et plein de subtilités, mais qui permet d'aborder la possibilité à un moment de dire, là, il faut que nous posions peut-être la question de l'arrêt des traitements et que nous passions peut-être à une visée qui déferait la médecine un petit peu de son pouvoir qu'elle avait sur l'accompagnement et précisément réinvestir le champ de l'accompagnement, le champ de l'accompagnement affectif. Qu'est-ce qui fait sens pour vous ? Qu'est-ce qui est important ? Comment peut-on définir un projet de vie puisque précisément la médecine aujourd'hui permet de générer de longues fins de vie. Comment ces longues fins de vie peuvent être des vies qui puissent avoir du sens, et ce sens ne se trouvera pas dans la médicalisation, me semble-t-il.
Mais là, vous êtes presque dans la recommandation, vous êtes presque dans l'idéal de ce qui devrait se faire. Voilà. Mais dans la pratique, et pour reprendre ce que dit le rapport de Ligas, alors je ne sais pas si on peut donner des pourcentages. J'ai 500 000 morts par an en France. L'essentiel se passe à l'hôpital. Bon, je ne sais pas ce que vous dites, c'est là, le temps, l'accompagnement, le moment choisi, le dialogue, la confiance. Enfin, voilà, toutes sortes de choses qui certainement relèvent de votre pratique et de la pratique de beaucoup de médecins. Mais apparemment, le constat fait par Ligas laisse à supposer que ça ne se passe pas comme ça.
Ah non, 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 non. Voilà. Ça ne se passe pas
comme ça. Majoritairement, ça ne se passe pas comme ça.
Oui, je crois qu'on ne peut pas contredire ce qui est dit par ce rapport de Ligas, qui est le fruit d'entretiens nombreux. Très, très nombreux. Et donc, c'est une photographie, une réalité. Ça ne se passe pas comme je vous dis qu'il serait souhaitable que cela se passe, entre guillemets. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi ? Parce que précisément, me semble-t-il, comme nous le disions lors de l'émission précédente, le médecin ne s'est jamais positionné dans cette perspective. J'insiste sur ce levier de la formation et de la recherche, mais sur ce levier de la formation qui peut produire à terme une véritable modification. Au final, l'importance qu'il faudrait accorder, puisque c'est de là que nous partions, l'importance qu'il faudrait accorder à ces temps, à cette temporalité de la fin de la vie, énoncée. La réintroduction, et peut-être faut-il que nous discutions un petit peu de cela, de la place des rituels. Pourquoi pas l'hôpital dans un premier temps, mais faut-il d'ailleurs que l'hôpital continue sa mission ? Faut-il penser d'autres lieux, d'autres espaces démédicalisés pour assumer cette place et ce temps de l'accompagnement qui ne relève pas, me semble-t-il, de l'hôpital, mais qui relève de ce que nous appelions la dernière fois de la solidarité. Il faut, me semble-t-il, en même temps que l'on démédicaliserait la fin de vie, il faudrait générer de nouvelles solidarités. Vous voyez cette complexité. Mais le constat que l'on fait de la mort esselée, en quelque sorte, à l'hôpital, le constat que l'on fait de la brutalité du traitement du corps mort, hein, je traduis en quelque sorte les propos, il y a de la violence derrière tout cela. Et la violence que constate l'IGAS est à la mesure, me semble-t-il, à la fois de la souffrance des soignants. Il faudra que nous en parlions, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dénoncer, il s'agit de comprendre de la souffrance des soignants et de l'ignorance ou de l'oubli de la place que pourrait jouer d'autres dynamiques, la dynamique médicale autour de ces questions de fin de vie qui sont en train, comme nous le disions l'autre jour, de devenir beaucoup plus importantes. Vous parliez, je crois, de 500 000 morts par an actuellement. Les projections que l'on fait à 10 ans sont de 700 000 morts par an. Enfin, vous voyez bien que cette problématique avec une société qui vieillit va devenir, à mon avis, beaucoup plus importante.
Alors, vous disiez violence, que je voudrais, avant qu'on en passe effectivement aux recommandations de la mission, parce que vous êtes, c'est ça, les deux éléments qui donnent intérêt à nos discussions, c'est que vous êtes à la fois dans la pratique et à la fois vous êtes un homme de perspective, de recommandation, d'observation. Voilà. Bon. Mais vous parlez de violence. Alors, le rapport de l'IGAS dit qu'il y a trois types de violence. Il y a la violence, effectivement, de l'absence de diagnostic, qui dit, voilà, bah maintenant, je le dis brutalement, parce que c'est toujours des situations compliquées, et vous en avez vécu bien plus que quiconque de nos auditeurs, mais cette question du bon moment pour dire, et pour qu'on puisse prendre des dispositions qui s'imposent, comme on disait autrefois, pour la fin de vie. Donc, première violence qui est celle-là. Deuxième violence, dit l'IGAS, l'hétérogénéité des pratiques vis-à-vis des soins palliatifs. Alors, Besançon est certainement, c'est pour ça qu'on vous consulte beaucoup pour beaucoup de sujets, un laboratoire positif de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faudrait faire. Mais le constat, c'est qu'il y a beaucoup de départements, 40, qui n'ont pas d'éléments de soins palliatifs, d'une part, et deuxièmement, hétérogénéité des pratiques. Donc, deuxième violence qui est que, il y a un peu, je le dis un peu comme ça brutalement, mais il y a un peu deux catégories de façon de mourir. Enfin, on ne meurt pas de la même manière, avec le même confort et le même accompagnement. Et troisième violence constatée par l'IGAS, c'est aussi effectivement, la personne vient de mourir, le corps est là. Comment gère-t-on ce corps, les chambres funéraires, etc., etc., qui sont, semble-t-il, dit le rapport de l'IGAS, d'une qualité ou d'un confort pour l'accueil de la famille qui n'est pas idéal, pour employer un euphémisme. Donc, sur ces trois violences-là, pour en rester en partie du constat, est-ce que vous corroborez ce rapport de l'IGAS et est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a là des violences inqualifiables pour tous ceux qui sont confrontés à ces situations-là? Et Dieu sait qu'elles concernent beaucoup de monde par an.
Alors, non seulement je corrobore ces trois niveaux de violence qui sont répertoriés dans le rapport de l'IGAS, mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'en ajoute un quatrième, et qui est la violence faite aux soignants. Pour les reprendre très rapidement, ces trois niveaux, la violence autour de la question de l'annonce ou de la non-annonce, justement, on en a parlé, donc je ne vais pas y revenir beaucoup, puisque je livrerai un peu ma vision de ce qu'il faudrait faire. Mais j'insisterai plutôt sur le deuxième niveau de violence, qui est finalement une hétérogénéité des pratiques autour de la fin de vie. Il y a ceux qui auraient la chance de bénéficier d'accompagnement et de soins palliatifs, et ceux qui se débrouillent, en quelque sorte. Hein. Alors, c'est tout l'enjeu de la mission dont je suis chargé, d'ailleurs, par la ministre de la Santé, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre du Travail. Finalement, la France investit beaucoup, contrairement peut-être à ce que l'on dit souvent, mais c'est le troisième plan de développement du soin palliatif. Vous me direz, on partait de zéro, donc il fallait quand même... Mais la France, par rapport aux autres pays d'Europe, est en train de faire un effort assez considérable. Il se trouve que dans le cadre de ma mission, je fais un tour des régions aujourd'hui. Je rencontre les directeurs des agences régionales de santé qui se mettent en place et les acteurs de terrain dans des réunions de travail pour programmer, en quelque sorte, les réponses à ces inégalités d'offres en matière de soins palliatifs pour que, finalement, les financements qui sont dans le cadre de ce plan aillent là où ils doivent aller. Mais vous savez, il ne s'agit pas que de financement, il s'agit aussi d'hommes susceptibles de développer ces dynamiques dans les régions. Mais je crois très honnêtement que les perspectives de ce point de vue-là sont quand même assez intéressantes. L'inégalité réelle actuelle est constatée par le rapport de l'IGAS et, me semble-t-il, en voie d'amélioration. Je modère mon propos, mais si on se met dans une perspective à 10 ou 20 ans, ce qui est quand même l'objet, à mon avis, des programmes de santé, je pense qu'on peut espérer qu'en France, on aura... Puisque nous avons choisi non pas de développer des soins palliatifs comme une nouvelle spécialité médicale, mais comme une culture intégrée à la pratique de tous les acteurs de santé, ce qui est beaucoup plus long pour atteindre le résultat, mais beaucoup plus solide, me semble-t-il, il me semble que nous aurons, avec des recours, que sont les unités de soins palliatifs, par exemple, un maillage qui permettra à tout individu, dans une démocratie, d'avoir un accès à peu près égal à des soins de qualité. Il faut savoir qu'en France, par exemple, les unités de soins palliatifs sont, à la différence des pays anglo-saxons, réservées aux situations les plus complexes, les plus difficiles.
Donc vous dites que le plan qui a été annoncé le 13 juin 2008, si je ne m'abuse, donc il n'y a pas seulement un effet d'annonce, mais il y a derrière, et vous êtes chargé de cela, derrière des moyens, oui. une vraie politique, etc., oui. que tout cela se met vraiment en place.
Ah oui, oui. Alors évidemment, je défends peut-être le travail que j'essaie de coordonner, mais de fait, certaines mesures ont une lisibilité qui ne sera à terme de 5 à 10 ans, ou même 20 ans. Quand je dis qu'il faut investir le champ de la formation des médecins, vous pensez bien que ce n'est pas tout de suite qu'on va en voir la conséquence. Mais je pense qu'on pourrait multiplier les structures de soins palliatifs par 2, par 10, par 20, sans que ça ne change pas grand-chose sur le terrain et que ça maintienne des inégalités. Si vous n'introduisez pas les soins palliatifs comme une culture intégrée à la pratique des acteurs, il y aura toujours des gens ou des médecins qui diront « mais non, on n'est toujours pas en soins palliatifs ». Il faut toujours continuer. Hein. Vous comprenez, c'est un peu la difficulté de ce programme, c'est qu'il ne portera ses fruits qu'à terme et qu'on est souvent dans des logiques, là aussi, de l'agir et du résultat. Alors bien sûr qu'on développe les équipes mobiles de soins palliatifs, les unités de soins palliatifs. Ce programme de développement des soins palliatifs est un des trois programmes de santé publique financés. Il y a tout de même 250 millions d'euros à distribuer. Ça n'est pas rien dans la période dans laquelle nous sommes, très honnêtement. Peut-être je passe au troisième point de violence, qui était la violence faite au corps mort, en quelque
sorte.
Une violence qui est plus liée à l'absence d'environnement pour ce corps et pour les proches. De quoi a-t-on besoin ? Je parle bien d'un besoin. Et ce besoin, s'il n'est pas satisfait, peut être source de déséquilibre futur majeur. C'est ce qu'on appelle, nous, les deuils compliqués, les deuils pathologiques. On a besoin d'une temporalité qui était investie par les rituels autour de la mort jusqu'il y a peu de temps, qui existe encore pour partie, mais qui ont été beaucoup atténués par la médicalisation de la fin de la vie. Il y a besoin d'un temps sans rien, un temps un peu pour assumer la sidération que la mort provoque chez les proches. Il y a besoin de ce temps vide qui permet peut-être à la fois de voir, peut-être de commencer à accepter et surtout d'investir ce qu'on appelle le travail de deuil. Il y a besoin d'un temps pour pleurer, pour exprimer sa souffrance. Il y a besoin d'un temps intermédiaire, c'était la fonction des rituels, intermédiaire entre cette vie qui est finie et cette mort qui n'est pas tout à fait là encore, puisque le mort est encore là physiquement. Il y a besoin d'un temps physique de contact entre le mort qui est encore là et celui qui va se retrouver seul, entre guillemets.
Le constat donc, de l'IGAS est extrêmement sévère.
Voilà. Il n'y a pas donc de possibilité aujourd'hui dans l'hôpital. Alors, en général, bien sûr, on va pas. Mais il n'y a pas de place faite à cette nécessité. La preuve, ce qui est dit et qui est un peu inquiétant dans le rapport de l'IGAS, l'absence de lieu. On évacue le mort, en quelque sorte. Très vite, il faut appeler les pompes funèbres pour l'embarquer, entre guillemets. Il n'y a pas d'espace pensé pour ce temps-là.
Donc, il importe, nous dit l'IGAS, d'encourager les établissements, fait partie des propositions, à assumer la fonction mortuaire. Donc, de développer les chambres mortuaires et que ces chambres mortuaires soient ouvertes beaucoup plus largement que ce qu'elles sont aujourd'hui, qu'elles soient plus accueillantes, etc. Donc, voilà, mais pour en revenir sur le constat et sur, c'est que là, il y a une vraie défaillance.
Alors, il y a une défaillance qu'il faut combler si on pense que la mort et la fin de vie doivent toujours rester à l'hôpital. Il reste cette question de fond, finalement. On ne changera pas les choses très rapidement. Donc, je pense qu'il faut effectivement développer les chambres mortuaires et l'environnement de ces chambres. Hein. Mais plus fondamentalement, je pense qu'il faut se poser la question de l'interface entre la médecine et la fin de la vie et la mort. Et peut-être que même si on développait des chambres mortuaires à l'hôpital, l'hôpital ne reste pas le lieu. Je le pose sous forme de question. L'hôpital n'est pas le lieu, à mon avis, pour que ces rituels nécessaires de passage, entre guillemets, puissent s'accomplir. Tant il est marqué par la technique soignante, en quelque sorte. Mais néanmoins, je corrobore et partage et le constat et les propositions. En attendant que notre société change, il faudrait peut-être qu'on n'oublie pas les morts.
Parce que c'est effectivement, c'est de l'isolement sur l'isolement, de la violence sur de la violence. Exactement. Du drame sur du drame, enfin, je veux dire, donc on est vraiment dans une situation qui concerne, enfin, on donne des chiffres comme ça, 500 000, 150 000, enfin, je veux dire, qui concerne une population gigantesque. Je veux dire, voilà, on se préoccupe globalement de beaucoup de sujets qui concernent beaucoup moins de personnes, et là, ça concerne quand même beaucoup de monde, et le constat de l'IGAS, avec les recommandations que vous faites et que lui fait, est quand même sévère. Alors, dernière violence que vous vouliez aborder, qui est celle de la souffrance faite aux soignants. Parce que vous tenez effectivement à ce que ce sujet-là soit abordé.
Oui, parce qu'il me semble, alors là, je suis peut-être beaucoup plus subjectif que par rapport aux trois autres aspects énoncés, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas dans le rapport de l'IGAS, mais il est plutôt dans les constats que je fais, y compris dans le cadre de ma mission et dans le cadre de ma pratique, c'est qu'autour de la fin de vie, non dites, non pensées, non accompagnées, fin de vie au sens large, hein, dont on vient de parler. Autour de cette fin de vie, il y a des proches et il y a des soignants. Et il faut, me semble-t-il, que nous prenions la mesure de la violence faite aux proches et aux soignants quand il n'y a pas d'accompagnement. Les soignants, du fait même des conséquences du progrès dans le champ de la médecine, comme je vous le disais tout à l'heure, les soignants sont confrontés à cette violence de la survie sans qualité, sont confrontés à cette violence de l'abandon du mourant. Quand je dis les soignants, je pense beaucoup aux infirmières, beaucoup aux aides-soignantes, beaucoup à ceux qui sont si près du corps, entre guillemets, et de la personne, ceux qui recueillent les éléments de sa souffrance, entre guillemets, et ceux à qui on dit qu'il y a peut-être des choses à faire autres que de rester à tenir la main des malades, en quelque sorte. Je trouve qu'il y a là un risque de démobilisation des soignants qui perdent le sens de leur mission et le sens de leur profession, en quelque sorte. Je le constate. Je pense que les gens qui travaillent dans les équipes mobiles de soins palliatifs sont confrontés à cette souffrance. On leur demande d'ailleurs souvent d'accompagner cette souffrance. Et je pense qu'il faut, dans la violence qui est faite aux personnes en toute fin de vie, voire aux morts, aux corps morts, entre guillemets, dont on parlait tout à l'heure, il y a peut-être une racine qui est la souffrance des soignants, qui n'arrive plus.
Alors vous avez raison, Pierre, on en viendra aux conclusions du rapport de l'IGAS, mais il ne faut jamais oublier, effectivement, et vous êtes bien placé pour le savoir, tout ce personnel des infirmières en particulier, qui est en première ligne et qui est confronté à toutes ces contradictions, à toutes ces demandes, à toutes ces violences qui leur retombent dessus d'une façon ou d'une autre, et à ce déploiement de générosité, de temps passé, de voilà, qui est une vraie difficulté que l'on peut imaginer pour elles. Et donc, peut-être pouvoir, d'une façon ou d'une autre, prendre en considération cette difficulté-là et l'accompagner ou essayer de la gérer au mieux des intérêts de tout le monde pour que cette démobilisation dont vous parliez ne se produise pas. Alors, conclusion donc du rapport de l'IGAS et préconisation, parce qu'il y a un certain nombre de préconisations, et je voudrais savoir ce que vous en pensez et comment est-ce qu'on peut y arriver, parce qu'il y a quand même une vingtaine de propositions qui est faite. Objectif, donc, je cite, « Mourir dans la dignité est une aspiration essentielle que l'hôpital se doit de rendre possible. » Et comment est-ce que l'hôpital peut le faire? À la fois en confiant à l'hôpital la mission de s'assurer que la mort des malades se passe le mieux possible, voilà. Réintégrer cette fonction mortuaire, enfin à la fin, enfin, ces chambres mortuaires, améliorer la prise en charge, revisiter certaines pratiques et redéfinir, enfin je le fais vite mais je renvoie nos auditeurs à cette question-là et je veux surtout avoir votre réaction, et redéfinir le périmètre des soins palliatifs. Alors comment est-ce que vous voyez ces différents chapitres du rapport de l'IGAS et qu'est-ce qui devrait être le plus urgent dans ces différentes recommandations?
J'approuve ces recommandations. Pour moi, puisque c'est la question que vous me posez, l'urgence se situe certainement, et contrairement peut-être à ce que laisse à penser la lecture de ces recommandations, l'urgence, de mon point de vue, se situe à la fois, dans, comme je le laissais entendre dans mon propos, dans la formation des acteurs de santé, et à la fois dans l'accompagnement de la pratique et de la souffrance des soignants. Parce qu'un soignant qui va bien est vraiment soignant, y compris pour un proche. Mais un soignant qui va mal a toutes les chances d'être maltraitant, y compris pour les proches. Je ne sais pas si mon propos est clair, Donc, pour moi, certes, construire des, enfin, ou en tout cas doter les hôpitaux, les établissements de santé de chambres mortuaires, comme cela est recommandé, est important. Mais il ne faut pas oublier que s'il n'y en a pas, cela témoigne d'une autre carence, entre guillemets. Et que ça n'est pas parce qu'il y aurait des chambres mortuaires qu'il y aurait de l'accompagnement. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre concomitamment toutes les mesures que préconise le rapport, et pas l'une ou l'autre, c'est toutes et en même temps. Et j'ajoute, parce que ça ne ressort pas, me semble-t-il, suffisamment, et j'insiste dessus, sur la nécessité, parce que là, le temps qu'il faut pour atteindre l'objectif est beaucoup plus long, l'investissement dans le champ de la formation. Tant qu'on ne réintroduira pas de l'humain dans la pratique du médecin en particulier, tant qu'on n'introduira pas de l'incertitude et du questionnement dans la pratique du médecin comme fondateur d'une bonne pratique, entre guillemets, on risque d'avoir de la violence autour de tout cela. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut accompagner les équipes, c'est un peu tout le plan de développement des soins palliatifs, tout cela, hein, accompagner les équipes dans cette espèce de mutation qui s'opère au sein même de l'hôpital, avec des fins de vie, de plus en plus longues, qui commencent très tôt et qui finissent très tard, et qui sont des temps d'expression de la souffrance, des temps d'expression d'une espèce de densité spirituelle auxquelles ne sont pas habitués ou coutumiers les soignants. La question du sens est posée, quand je dis spirituel, c'est la question du sens qui est posée finalement. La question du sens est posée de plus en plus souvent par la personne malade. En face, il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cela. Et à qui on demanderait des éléments de réponse. Alors, il ne s'agit pas de dire que le soignant doit devenir celui qui...
Un prêtre.
Ce n'est pas ça. Mais le soignant ne doit pas être étranger à cette question qui devient prédominante. Vous voyez ce que je veux dire ? Les moyens structurels ne doivent pas passer devant la nécessité de la formation et de l'accompagnement des équipes. Quand je dis accompagnement, on est pratiquement dans une logique de formation continue, quoi. Et quand je dis formation, je voulais dire formation initiale. Éviter que le médecin confronté à la question de la fin de la vie la vive comme une violence ou un échec. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et éviter que le soignant, finalement, devienne souffrant. Voilà, à mon avis, des éléments qui peuvent paraître très discursifs comme cela, mais qui, dans la pratique, peuvent avoir une réponse assez claire. Alors, c'est toujours facile de donner des conseils, mais je pense que si on développe, c'est en tout cas ma mission, les soins palliatifs, ça n'est pas tant pour développer des structures spécialisées que pour avoir des outils qui permettent aux acteurs engagés actuellement dans l'hôpital, dont on a parlé au long de ces deux émissions, à ces acteurs d'accompagner le changement qui s'opère en son sein de l'hôpital et de ne pas être déstabilisés ou trop déséquilibrés dans ces nouvelles questions qui émergent, dans la gestion de ces situations complexes et dans l'approche de la vulnérabilité générée par le progrès.
Et dernière question, il y a un troisième point. Donc vous parlez de la formation, donc en amont, mais ça c'est pendant 15 ans. L'accompagnement et le fait de soigner les soignants, enfin de prendre soin des soignants pour éviter qu'ils ne soient démobilisés. Et troisième aspect, l'accueil. L'accueil de la famille, l'accueil des amis, l'accueil... Voilà. Que l'hôpital ne soit pas, c'est ce que dit le rapport de l'IGAS, que l'hôpital ne soit pas un lieu étranger aux familles, aux amis, aux accompagnants familiers, voilà, mais qu'il soit capable, l'hôpital, d'accueillir vraiment comme étant chez eux la maison commune, voilà, ces gens-là, ce qui, semble-t-il, n'est pas fait du tout, ou très mal, ou de façon très disparate.
Vous avez raison, et c'est extrêmement important. D'ailleurs, dans le programme de développement des soins palliatifs, mais aussi dans le plan Alzheimer, me semble-t-il, on insiste beaucoup sur la question de ce qu'on appelle l'aide aux aidants. Enfin, en tout cas, sur la place des proches, qui est une place qui émerge. Il y a peu de temps encore, et encore souvent aujourd'hui, en témoigne le rapport de l'IGAS, les proches ne font pas partie des personnes dont s'occupent les soignants. On soigne des malades, on ne soigne pas les proches des malades. Bien non. Non, parce que en fait, on soigne une personne dans un environnement. Et dans cet environnement, il y a des personnes qui sont proches, qui peuvent, elles, tomber malades si elles ne sont pas prises en compte. Les soins palliatifs, dans leur définition même, considèrent le proche comme une entité, une part entière de la mission du soignant. Accueillir le proche dans sa souffrance, puisqu'il s'agit de ne pas se substituer aux proches, ce que fait pendant un temps la médecine, en disant « allez-vous-en, c'est notre travail ». Non, le proche a sa place, entre guillemets. D'ailleurs, sa place est beaucoup plus importante qu'on ne le croit. En amont des soins palliatifs terminaux, le proche est certainement celui qui permet à celui qui est malade de comprendre sa maladie, parce que c'est un peu le décodeur. C'est lui qui va rester après la consultation. Vous savez, c'est connu ça. Un malade arrive chez un médecin, un cancérologue par exemple. Le cancérologue, très honnête, lui explique ce qu'il a. Le malade sort, on lui dit alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Rien, tout va bien. Ça n'est pas du tout ce qu'a dit le cancérologue. Sauf que si un proche était là, et si on avait voulu s'occuper aussi du proche, le proche pourra petit à petit dire, t'es sûr que c'est ce qu'il a dit ? T'as vraiment entendu ça ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Enfin, vous voyez, tout cet accompagnement. Et puis ensuite, le proche, lui-même confronté à la perte, pas la perte de sa propre vie, mais la perte d'une partie de lui, de ce proche qu'il aimait, entre guillemets, va lui-même avoir besoin qu'on l'accompagne. Et tout ce chantier-là, à mon avis, est totalement occulté. Ce qui fait d'ailleurs, que ceci est dénoncé d'ailleurs dans le rapport de l'IGAS, on a l'impression que les proches sont totalement oubliés. Oubliés du début à la fin. Si à la fin, rien n'est pensé pour les proches, c'est parce que depuis le départ, on a oublié que la vie s'inscrivait dans un autre champ que celui de la médecine.
Comme je sais, et nous allons rester là-dessus, comme je sais que vous êtes optimiste, c'est ce que nous avons constaté lors de la première mission, j'ose espérer que votre optimisme n'est pas émondé par le constat de l'IGAS, et comme vous êtes au courant de ce qui se passe, du pouvoir politique, de ceux qui décident, j'ose espérer que le rapport de l'IGAS ne restera pas lettre morte et que beaucoup de choses seront faites dans le cadre de cet accompagnement-là. Voilà. Donc nous restons sur cette optimisme-là. Je renvoie donc nos auditeurs au rapport de l'IGAS qui est en ligne et que l'on peut retrouver avec les recommandations. Je renvoie nos auditeurs aux deux rapports Lunetti dans lesquels figurent vos contributions. Et je vous remercie, Régis Aubry, d'être venu nous éclairer sur cet aspect-là des choses, en espérant que votre optimisme sera de mise et qu'il aura toute raison d'être légitimé par l'avenir. Merci beaucoup.
Merci à vous.